suis en continuité du cours de phénoménologie que je vais partager avec certains des membres actifs du cercle des étudiants en philosophie. Donc voilà, on a eu la chance de discuter déjà un certain nombre de problématiques phénoménologiques ensemble au premier quadrimestre de cette année universitaire. Donc ce que je vais raconter ici va en partie se fonder sur ce qu'on a pu poser dans le cadre de ce cours, et puis en partie ce sera, voilà, ce sont des nouveaux développements que j'espère suffisamment intelligibles. Si jamais ça ne devait pas être le cas, vous devez sans faute m'interrompre, me poser des questions, et puis ne pas hésiter également à la fin de la conférence, poser des questions d'éclaircissement, hein, parce que vous savez, en phénoménologie, on est facilement jargonnant, sans se rendre forcément compte, et pas parce qu'on veut du mal à autrui, hein, mais voilà, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc n'hésitez pas à poser des questions même sur les concepts, ou alors sur tout ce qui ne serait pas assez clair dans ce que je vais raconter. Alors voici ma question de départ. Quelle est la fonction de l'imagination au sein de la vie de notre sensibilité et au sein de la vie de notre intelligence? Quel est son rôle, sa tâche, sa finalité? Les recherches phénoménologiques husserliennes ont contribué à mettre en évidence une fonction qu'on peut appeler gnoséologique ou épistémologique, fondamentale de l'imagination. Ainsi, dans le cadre de la critique de la théorie de la connaissance proposée par Husserl, l'imagination en vient à jouer un rôle important au moins à deux niveaux. Il y a tout d'abord le niveau de la fondation de la connaissance dans ce que Husserl appelle les actes intentionnels intuitifs, une famille d'actes intentionnels qui est censée assurer les nouvelles bases de la connaissance, une famille qui est composée principalement par la perception et par l'imagination. Et puis, il y a un deuxième niveau, qui est le niveau de l'eidétique, de la théorie des essences husserliennes, où une opération dont l'imagination est pourvoyeuse, la variation imaginaire, sert à dégager les essences phénoménologiques. Dans le cadre de l'eidétique phénoménologique, l'imagination vient faire varier de manière indéfinie la donation possible d'un objet, jusqu'à en saisir l'essence irréductible. Sur le fond de tous les changements possibles qu'on peut imprimer à ce qui est perçu, se dessine alors l'essence invariante de cet objet. Mais en engageant ainsi l'imagination comme opération qui nous fait passer des faits aux essences, Husserl ne s'intéresse pas tant à la détermination des invariants en eux-mêmes, il ne s'agit pas ici de cataloguer toutes les essences du réel et d'en disposer par la suite dans les descriptions. Il s'agit plutôt de s'intéresser à l'opération de variation comme telle, de ce qu'elle rend possible, c'est-à-dire l'ouverture à un courant qui coule parallèlement à la vie effective de la conscience. Et ce courant, c'est le courant des possibilités qui accompagnent le vécu effectif de chacun d'entre nous. Le domaine de l'imagination, pour Husserl, est donc le courant des possibilités qui ne dépendent pas directement des faits, mais s'en dégagent librement. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout d'abord, cela veut dire que l'imagination est une puissance de rupture. Grâce à elle, on quitte le domaine des faits pour s'élever, si vous voulez, vers le domaine des essences. Dans la méditation cartésienne, Husserl va expliquer la nécessité de ce saut par le fait que la vie de la conscience est divisée en deux flux qui coulent, pour ainsi dire, parallèlement. Il y a le flux de notre vie effective, de ce qui nous arrive, de ce que nous faisons, vraiment, et le flux de notre vie possible, de ce qui pourrait nous arriver, de ce que nous pourrions faire. Et je vais citer ici un peu Husserl, paragraphe 25 de la troisième méditation cartésienne. Une opposition traverse toute la sphère de la conscience et corrélativement toutes les modalités de l'être. C'est l'opposition entre le réel et l'imaginaire, la fiction de réalité. Du côté de l'imagination, surgit un concept nouveau de possibilité, concept général où l'on retrouve d'une façon modifiée, dans l'aspect de la simple concevabilité, dans l'attitude comme si, tous les modes existentiels, à commencer par la simple certitude de l'existence. Cette duplication, donc en réel et imaginaire, s'accomplit en des modes qui, par opposition aux modes du réel, tels que être réel probable, être réel douteux, etc., appartiennent à des irréalités purement imaginaires. Ainsi s'établit une distinction corrélative
entre les modes de conscience de position, que Husserl l'appelle aussi positionnel, et les modes de conscience de quasi-position, du comme-si de l'imagination. Entre les deux courants de l'imagination et de la réalité, il n'y a pas de véritable continuité, d'où la nécessité d'opérer un saut des faits vers les possibilités que l'imagination propose. Et l'imagination est donc cette puissance de dessaisissement qui nous permet d'envisager, à côté de l'écoulement effectif de l'expérience, le vaste domaine de l'expérience possible, et parfois de rejoindre ce domaine en interrompant temporairement notre adhésion au domaine des faits. Cette interruption que l'imagination rend possible, c'est une épopée toute spéciale qui joue un rôle important dans le partage de l'empirique et du transcendantal au sein de la phénoménologie husserlienne. Mais l'imagination est également une puissance de médiation. Ce n'est pas seulement une puissance de rupture, hein, c'est aussi une puissance de médiation, de lien, d'ancrage des connaissances générales dans les vécus particuliers. L'idéétique husserlienne n'est pas à confondre avec un essentialisme de type platonicien, précisément parce que les essences phénoménologiques restent liées aux faits. Et c'est Maurice Merleau-Ponty et à sa suite Marc Richir qui ont mis en évidence cette caractéristique des essences phénoménologiques qui complique, du coup, le rôle de l'imagination. Il apparaît ainsi que, loin de séparer tout simplement les faits des essences, l'imagination vient aussi rattacher les essences aux faits, rendant ceci perméable au possible qui germe en eux, et inversement, en ancrant les essences dans le sol d'une concrétude qui reste centrale dans toute démarche phénoménologique. Pour le dire autrement, après nous avoir détaché des faits afin de nous faire connaître la liberté de vrai dans le possible, l'imagination nous y ramène. Et c'est en cela que réside sa fonction proprement phénoménologique. La fonction éidétique de l'imagination ne saurait donc se concevoir sans cette fonction phénoménologique par laquelle nous retrouvons le sol de l'expérience concrète après avoir découvert la liberté du possible. C'est en insistant sur les enjeux de cette dimension épistémologique de l'imagination que Husserl va écrire dans les idées directrices pour une phénoménologie pure que, je cite, la fiction constitue l'élément vital de la phénoménologie. Fin de la citation. Paragraphe 70 des idées directrices pour une phénoménologie pure. Je dirais qu'en examinant l'apport épistémologique de l'imagination, il en va de la vitalité de la phénoménologie, voire de sa survie, de telle manière qu'il serait impossible de concevoir une phénoménologie qui pourrait se passer du travail de l'imagination. Mais cette vitalité ne concerne pas uniquement la théorie de la connaissance, au sein de laquelle la phénoménologie a évolué à ses débuts. Elle concerne également un domaine pratique, au sein duquel la démarche phénoménologique a cherché à s'inscrire par sa méthode, tout d'abord, et à partir de laquelle son importance est reconnue de plus en plus aujourd'hui. Cette pratique, qui sous-tend l'épistémologie phénoménologique, ressort si on tient compte du fait que la dimension épistémologique de l'imagination, explicitement traitée par Husserl, est elle-même complétée par une dimension pratique, qui est, elle, plus difficile à saisir et à analyser. Et c'est à cette dimension que j'ai décidé de consacrer mon intervention d'aujourd'hui, en m'appuyant sur trois aspects de l'imagination qui me paraissent importants. Sa matérialité spécifique, son rôle au sein de la subjectivité et sa spatialisation. Et ce seront les trois parties de mon exposé d'aujourd'hui, donc matérialité, intersubjectivité, spatialisation. Des parties réparties de manière pas tout à fait équitable. Je parlerai beaucoup plus de la matérialité et de l'intersubjectivité que de la spatialisation en fin de compte. En abordant ces trois aspects de la vie de l'imagination, je ne vais pas m'en tenir exclusivement au cadre de la phénoménologie husserlienne. Là où ce sera nécessaire, je vais faire des incursions également dans d'autres cadres philosophiques qui permettent d'éclairer cette dimension pratique de l'imagination que je voudrais mettre en avant. Donc, première partie, la matérialité de l'imagination. En abordant cet aspect de l'imagination, je vais partir de la théorie de l'intentionnalité husserlienne pour aboutir à une philosophie qui s'en revendique, du moins à partir d'un certain point. C'est la philosophie de l'imagination de Gaston Bachelard. C'est surtout le dernier Bachelard, celui de la poétique de l'espace et de la poétique de la rêverie, qui se déclare, à la surprise de beaucoup, phénoménologue, après avoir jusque-là gardé ses distances par rapport à la phénoménologie husserlienne. Il paraîtrait qu'on doit à Suzanne Bachelard, hein, la fille de Bachelard, traductrice de Logique formelle et logique transcendantale, ouvrage de Husserl, cette conversion sur le tard de Bachelard à la phénoménologie. Donc je vais suivre cette trajectoire qui va de Husserl à Bachelard, mon objectif étant ici d'aller contre une certaine conception de l'imagination qui la rattache toujours à une irréalité immatérielle pour l'opposer à une réalité matérielle contre laquelle les projections de l'imagination viendraient nécessairement se briser. Même le passage que j'ai cité tout à l'heure des méditations cartésiennes peut prêter à ce type d'interprétation. Il y a d'une part le courant de la réalité avec tout ce qu'il a de concret, d'effectif, et puis il y a d'autre part le courant de l'imagination avec toutes les possibilités qui peuvent être importantes pour nous parfois, mais qui le plus souvent sont finalement beaucoup moins importantes que ce qui se passe effectivement dans notre vie. Et ce sont en effet les limites supposées du domaine de l'imagination qui sont visées par une telle démarche qui interroge la matérialité des productions imaginaires. Ces productions, qu'il s'agisse des images, des rêves ou des apparitions fulgurantes qui nourrissent nos rêveries, sont-elles de l'ordre d'une pure évanescence? Une évanescence que tout contact réel serait susceptible de faire disparaître. Voici ma question. Si tel était le cas, on pourrait se ranger derrière une conception dualiste qui oppose la réalité à l'imaginaire, destituant ce dernier de tout pouvoir effectif de transformation de nos pratiques. Pour aller contre un tel dualisme, qui assigne donc à l'imagination un rôle uniquement compensatoire, dont on peut se dispenser dès que nous sommes mis face à des questions matérielles concrètes, le phénoménologue husserlien, disons, dispose d'au moins deux outils. On peut tout d'abord, ce sont des outils méthodiques, méthodologiques, on peut tout d'abord rappeler la distinction conceptuelle mise en évidence par Husserl entre deux sens de la réalité. Ce sont deux sens qui se disent avec deux mots allemands différents. Il y a d'une part la réalité, qui peut être traduite par réalité, et il y a d'autre part la Wirklichkeit, qui peut être traduite par effectivité. Ce sont là deux manières d'exprimer la réalité de notre expérience comme étant d'une part extérieure à la vie subjective, constituant son objectivité indépendamment d'elle, et d'autre part comme découlant de la vie subjective, constituant son objectivité à partir des pouvoirs visibles et invisibles de la subjectivité. Face à cette distinction entre réalité et effectivité, la démarche de Husserl sera de fonder la réalité objective dans l'effectivité de la vie subjective, qu'il comprend comme une vie intentionnelle. Pour Husserl, il n'y a pas de savoir objectif qui ne découle de l'effectivité de la conscience, de même qu'il n'y a pas de réalité qui ne soit dépendante de la subjectivité qui en constitue le sens. Que serait une réalité dont on aurait la moindre idée, dont on ne pourrait pas concevoir un sens? Eh bien, ce serait rien pour nous, dit Husserl. Donc voici le point qui est ici à souligner. C'est au sein de cette effectivité donc qu'il faut rechercher ce qui est véritablement concret pour nous, et c'est au sein de cette effectivité qu'il convient de réfléchir à la consistance de la vie imaginaire également. Voici donc le premier outil qu'on peut mobiliser, et puis un deuxième outil, on peut réfléchir à la signification de la matière en phénoménologie. Cette matière est-elle de l'ordre d'une robustesse physique, préalable à tout agir humain et insensible à cet agir? Est-elle de l'ordre d'une nature primitive qui serait à séparer de toute forme de culture humaine? Ou bien peut-elle être conçue comme étant de l'ordre d'une efficacité propre à l'agir humain? Cette question, c'est une question difficile. Qu'est-ce que la matière pour nous? Qu'est-ce qui est véritablement matériel dans notre expérience? Cette question a été posée avec acuité au sein du courant phénoménologique par un phénoménologue d'origine vietnamienne qui s'appelle Tran Duc Tao. Alors, en trois mots, Tran Duc Tao, avec T-H-A-O à la fin, qui, dans son livre Phénoménologie et matérialisme dialectique, a accusé la phénoménologie husserlienne de se complaire dans un idéalisme de la conscience qui est incompatible avec une saisie de la matérialité de l'expérience. Et il apparaît que Tran Duc Tao avait raison, au moins sur un point. La matière intentionnelle, donc ce que Husserl appelle la matière intentionnelle, c'est le sens que l'on donne aux choses de notre expérience. Cette matière intentionnelle reste effectivement de l'ordre d'une idéalité. Mais Contrairement à ce que Trần Đức Tao supposait dans son ouvrage, cette matière intentionnelle n'est pas incompatible avec cette autre matérialité de ce qu'il appelle les infrastructures de l'expérience qui concerne le régime de notre sensibilité et le régime de notre agir. L'hypothèse de Trần Đức Tao était que ce régime, le régime sensible et actif de notre vie, dispose d'une économie propre qui reste imperméable à l'idéalité subjective à laquelle Husserl aurait cherché à la ramener. Or, c'est précisément parce que le sens, tel qu'il est compris en phénoménologie, n'est pas une simple signification idéale détachée de l'expérience, mais au contraire, un mouvement actif qui englobe l'ensemble de l'expérience humaine, c'est précisément pour cela qu'il ne saurait rester opaque à ce qui se joue dans les tréfonds de notre agir et de notre sensibilité. Si l'on mobilise donc ces deux outils de la phénoménologie, une interrogation sur le statut de la réalité et une interrogation sur le statut de la matérialité de l'expérience, les cadres du dualisme imagination-réalité s'en retrouvent ébranlés. En effet, si l'on accepte que la réalité ne peut pas être conférée uniquement à un domaine indépendant de la sphère subjective, mais doit être pensée comme procédant de son activité, et que la matière de l'expérience est à comprendre, elle, comme appartenant tout autant à l'activité de la conscience qu'à l'économie de notre sentir et de notre agir, on ne peut plus soutenir la thèse d'une ségrégation entre la réalité et l'imagination. Plutôt que de s'en démarquer, l'imagination contribue à fonder la réalité de notre expérience en participant à son effectivité et en y jouant une forme de matérialité. Mais quelle est cette matérialité spécifique de l'imaginaire et de l'imagination ? Suffit-il de dire que l'imagination est créatrice de sens nouveaux pour lui accorder une matière bien à elle et la sortir du régime de l'évanescence auquel elle est condamnée ? Eh bien, peut-être que cela ne suffit pas, mais cela a son importance, sans doute, de dire que l'imagination est créatrice de sens qui nous permettent d'accéder à de nouveaux horizons, qui, avant d'être des horizons de pensée, sont des horizons de la sensibilité. On peut ajouter à cela que l'imagination est une approche indirecte, qui permet également de mobiliser des sens inactuels au sein de l'actualité de la conscience. Ou, pour le dire autrement, de faire communiquer des régimes de conscience hétérogènes, tels le régime de notre passivité et le régime de notre activité. Parce qu'il n'y a pas dans la vie de la conscience uniquement une pure activité intentionnelle. Il y a également des sens qui sont passivement déposés, pour ainsi dire, au sein de la subjectivité et qui peuvent être réactivés, remobilisés au sein de la vie de la conscience. Donc il est important de dire que la vie de l'imagination n'est pas seulement faite d'anticipation, hein, l'imagination ne va pas toujours vers l'avant, mais qu'elle mobilise également une forme d'historicité de la conscience, hein, en faisant appel à ses sens passivement sédimentés. Bon, je vais vous épargner l'aridité des analyses husserliennes qui, en partant d'une description de ce qui se passe dans l'actualité de la conscience, se dirige vers le domaine de la passivité, c'est-à-dire le domaine de tout ce qui, dans une expérience, n'est pas le produit direct de l'activité d'une conscience. Je vais plutôt dire ici un mot sur l'approche de Bachelard, qui, dans un premier temps, préfère partir des éléments de la nature pour déchiffrer le travail de l'imagination, plutôt que d'une théorie de la conscience, comme Husserl. Ainsi, dans son ouvrage « L'eau et les rêves », sous-titré « Les essais sur l'imagination de la matière », Bachelard observe que la matière ne peut être saisie qu'en nous plaçant en deçà et au-delà de l'intentionnalité de la conscience. Et on a là, chez Bachelard, une critique ouverte de l'intentionnalité. Pourquoi se placer en deçà et au-delà de l'intentionnalité de la conscience ? Eh bien, pour accueillir ce qui se présente souvent, non pas comme quelque chose d'homogène à ses visées, quelque chose qui va bien ensemble avec ce qui est attendu par la conscience, mais plutôt comme quelque chose qui est hostile, étranger à elle. La matière, pour Bachelard, se caractérise avant tout par une forme d'adversité, hein, une forme de surprise qu'elle nous réserve à chaque fois, d'imprévisibilité et surtout d'adversité, qui lui confère le rôle d'un défi adressé à notre intelligence et à notre sensibilité. Et de fait, nous avons là deux approches complémentaires de l'imagination. L'une qui la saisit à partir de la subjectivité, c'est Husserl, et une autre qui la saisit à partir des éléments de la nature qu'elle vient façonner. C'est pour Bachelard, l'eau, l'air, le feu, la terre. La complémentarité de ces deux démarches apparaît surtout si l'on tient compte du fait que Husserl part d'une analyse de la conscience pour découvrir ensuite l'importance du monde de la vie. Tandis que pour Bachelard, ce sont les éléments de la nature qui sont les premiers, et ensuite le rattachement à la sphère subjective. Donc on a là vraiment deux démarches qui partent de deux pôles opposés, mais qui finalement, nécessairement, se croisent dans les problèmes qu'elles posent. On ne sera pas étonné de découvrir que c'est la deuxième démarche, donc celle de Bachelard, qui pose de manière plus radicale la question de la matérialité de l'imagination. Préoccupée qu'elle est de définir la matière comme relevant d'une pluralité de forces intensives qui s'inscrivent dans un rapport d'adversité par rapport à la conscience. Car Bachelard ne va pas se contenter de dire que l'eau, l'air, le feu, la terre suscitent des rêveries spécifiques. Il va chercher également à comprendre comment l'imagination en vient à être travaillée par ces éléments, comment elles sont nourries et comment elles se développent à partir d'eux, avec à chaque fois des trajectoires très particulières. Ce n'est pas de la même façon que l'on imagine si l'on part de l'eau, de l'air, du feu ou de la terre. Et la dernière partie de sa tétralogie des éléments, celle que je préfère, qui est consacrée aux rêveries de la volonté, aux rêveries du repos suscitées par la terre, propose de penser la matière comme ce qui s'affirme, et là je cite, « dans l'intimité de l'énergie du travailleur, en tant qu'elle rencontre une résistance qui met à l'épreuve la puissance de son agir ». Donc c'est à nouveau cette dimension de l'adversité qui est cette fois-ci exprimée par le thème de résistance qui dit la matière. Ainsi se fait jour ce que Bachelard appelle l'instance dynamique du contre, l'instance dynamique du contre, où la pensée se laisse inciter par une matérialité qui se transforme grâce à notre agir et qui nous transforme également, nous, en tant qu'être agissant. On comprend ainsi que le travail de l'imagination est impensable, indépendamment d'une forme de matérialité. Il ne s'agit pas uniquement de la matière de la conscience ici, qui confère un sens à ce qu'elle saisit, ou de la matière du monde, au sein de laquelle cette conscience évolue et apprend à connaître ses potentialités. C'est également la matérialité de notre travail et de nos actions, où se dessine une forme inédite de réflexivité, et une possibilité également nouvelle de se connaître soi-même. Une forme d'autoconnaissance qui ne passe plus par le travail de la conscience, mais par une épreuve directe avec ce qui nous fait face, une épreuve face à ce qui nous défie. Pour décrire cette réflexivité, Bachelard parle d'une inversion nécessaire de la phénoménologie. Inversion de la phénoménologie qui, dans ses descriptions, ne doit plus partir des actes de la conscience, mais de ceux qui échappent à la visée de ces actes, à savoir d'une matière qui nécessairement modifie et transforme nos intentions. Il ne s'agit donc pas seulement de saisir, par le biais de l'intentionnalité, mais de se laisser saisir. Dès lors, la matière de l'imagination est à comprendre comme cette source impossible à connaître comme telle des modifications et des transformations que nos intentions subissent. Donc la source des modifications et des transformations que nos intentions subissent qui nous permet de développer un autre rapport à nous-mêmes. Et c'est en fin de compte, dans ce rapport à soi, que l'imagination intervient de manière décisive comme condition de nos actions et de nos passions. Et je vais faire appel ici à un passage de l'éthique de Spinoza qui m'a été suggéré par un membre du cercle des étudiants en philosophie qui répond très bien à cette question que nous pose ici Bachelard. Donc Spinoza, dans la troisième partie de l'éthique. « Tout ce que l'homme imagine ne pas pouvoir, il l'imagine nécessairement. » Et cette imagination le dispose de telle sorte qu'en vérité, il ne peut pas faire ce qu'il imagine ne pas pouvoir. Car aussi longtemps qu'il imagine ne pas pouvoir telle ou telle chose, aussi longtemps qu'il n'est pas déterminé à le faire, et par conséquent aussi longtemps, il lui est impossible de le faire. Pour comprendre le sens de cette thèse qui accorde à l'imagination un pouvoir déterminant sur notre capacité d'agir, je voudrais dire un mot sur sa modalité particulière de faire comme si quelque chose qui n'existe pas ou n'est pas présent, était là, accessible et expérimentable. Je crois que c'est cette dimension-là, cette fonction-là de faire comme si, remarquée par la phénoménologie, qui doit être ici mobilisée éclairer ce que veut dire ici Spinoza lorsqu'il décrit l'imagination comme une force déterminante de nos actions. Bien qu'incapable de présenter son objet en chair et en os, comme la perception, l'imagination présente en effet cette qualité insigne de pouvoir nous le donner en absence, comme s'il était présent. Et c'est en procédant de cette manière que l'imagination rend des objectifs qui paraissent inatteignables proches, ou alors inversement, des objectifs qui sont tout proches, très lointains, en ménageant à nos actions un régime de possibilités déterminées, qui peut être tantôt plus large, tantôt plus restreint. Donc ce n'est pas uniquement en tant que force positive que l'imagination doit être ici comprise, ce n'est pas uniquement une force qui élargit toujours le domaine de nos actions, cela peut être bien une force qui inhibe nos actions, mais ce qui est certain, c'est qu'elle a un impact très important sur notre capacité d'agir. Si nous agissons courageusement ou lâchement, si nous faisons preuve d'audace ou de crainte, de vanité ou d'humilité, c'est parce que l'imagination nous y dispose de telle ou telle manière. Et c'est cette disposition de faire comme si, c'est dans cette disposition que réside sa matérialité. Une matérialité qui a une incidence directe sur notre puissance d'agir et de partir. Je vais passer maintenant à la deuxième partie de mon exposé consacrée à l'intersubjectivité et c'est... précisément en utilisant cette fonction de faire comme si, comme levier. Puisque la fonction de faire comme si de l'imagination s'avère particulièrement intéressante dans ce domaine, à part de la description phénoménologique husserlienne, qu'est l'intersubjectivité. Un domaine qui est abordé lorsque Husserl analyse ce qu'il appelle la présentation propre à la sphère de l'autre ego. Qu'est-ce qu'une apprésentation de l'autre ? C'est une présentation privative de certains aspects de la vie d'autrui, surtout de sa vie de conscience, de sa vie en tant qu'ego particulier, qui ne se confond pas avec la vie d'un autre ego. Dans ce rapport à autrui, où quelque chose de sa vie propre demeure toujours caché, cela se passe, nous dit Husserl, comme dans le cas de la perception par esquisse d'une maison ou d'un cube, où certains côtés restent nécessairement invisibles, tout en étant codonnés ensemble avec les côtés visibles. De la même manière, dans la perception d'autrui, sa sphère égoïque demeure cachée. À cette différence près qu'elle ne peut jamais devenir visible. Contrairement à la maison dont on peut faire le tour, ou du cube que l'on peut retourner, eh bien je ne peux pas pénétrer dans la conscience d'autrui. Dans le cas de la perception d'autrui, sa vie consciente, son intériorité, pour le dire ainsi, ne peut jamais m'être donnée directement, cas auquel je ne pourrais plus distinguer entre ma propre sphère égoïque à moi et la sphère égoïque d'autrui. Si je suis moi et si autrui est l'autre, c'est précisément parce qu'il m'apparaît sans jamais se donner directement et totalement à ma saisie, à ma perception. Si je pouvais pénétrer dans la sphère de sa conscience, on partagerait, pour ainsi dire, la même conscience. Mais ce n'est pas le cas. Dès lors, quelles sont nos chances de comprendre ce qui se passe dans la sphère égoïque de l'autre et de communiquer avec lui? C'est une question qui peut paraître un peu bête, un peu basique, mais qui a été très importante pour la phénoménologie husserlienne. Si le seul outil de compréhension dont nous disposons était l'intentionnalité, comprise comme saisie ou visée active d'un objet, ces chances de comprendre autrui seraient à peu près nulles. Ce qui ne signifie pas, bien sûr, que les rapports objectivants sont exclus des relations intersubjectives. Comme Sartre l'a montré dans L'être et le néant, ces rapports objectivants sont plutôt légions, ayant pour conséquence une conflictualité patente des rapports sociaux. Autrui a le pouvoir de m'objectiver par son simple regard, me niant en tant que sujet, en m'aliénant à moi-même, et réciproquement, j'ai le pouvoir de le nier en tant que sujet. Il n'en reste pas moins que, même dans ces rapports aliénants, il n'y a pas de saisie active de la sphère de conscience de l'autre. Sphère de conscience dont la présentation est, pour ainsi dire, inépuisable. Autrui n'est pas un objet dont je peux viser le sens et déterminer la fonction au sein de mon expérience. Contrairement à la maison qui ne me montre qu'une façade, mais dont je peux faire le tour, autrui ne se montre pas tel qu'il est, ne se donne pas pleinement. Quelque chose en lui dépasse même le régime de mes possibilités, en restant à jamais énigmatique et imprévisible. Il est, pour le dire en termes husserliens, inconstituable. Ce n'est pas moi qui constitue le sens de son expérience, il est lui-même source de sens, et c'est à ce titre qu'il dépasse toutes mes tentatives de l'englober dans l'économie de sens de mon expérience propre. Et pourtant, je comprends le fait que l'autre a, comme moi, une vie de pensée et une vie affective propre. De ma sphère propre à la sienne, une forme de partage est non seulement possible, mais aussi effective. C'est une forme de partage qui semble même être effective avant de se présenter comme possible. On est déjà en train de communiquer, enfin, sans trop savoir comment, avant de pouvoir concevoir la possibilité claire de cette communication. Je peux manifester de l'empathie à l'égard d'autrui. Je peux faire preuve d'altruisme en mettant entre parenthèses mes intérêts immédiats. Nous pouvons ensemble faire œuvre commune, former des projets, partager des valeurs existantes, en créer des nouvelles. Et ce rapport que j'ai à autrui, par-delà mon impossibilité d'accéder à sa sphère de constitution propre, trouve sa source dans une analogie de type particulier. Comme Husserl le précise, cette analogie ne doit pas être comprise comme une opération logique. Je ne suis pas en train de réfléchir à la comparaison qui peut être établie entre le rapport que j'ai au monde et le rapport qu'autrui a au monde. Ce n'est pas parce que je prends conscience du fait que l'autre perçoit le monde comme moi que je peux avoir accès à sa vie et partager quelque chose avec lui. Cette analogie est plutôt de l'ordre d'une synthèse passive, comme dit Husserl, une synthèse passive d'association qui se fait entre ma sphère et la sphère de l'autre. On se retrouve associés. Nous sommes d'emblée associés. Une synthèse passive grâce à laquelle je peux le reconnaître comme mon semblable, comme un autre être humain. Or, dans la réactualisation de cette synthèse, l'imagination en vient à jouer un rôle décisif. C'est parce que je peux faire comme si j'étais autrui et comme si j'éprouvais ce qu'il éprouve que nous pouvons former une communauté humaine, une communauté de sentir et de penser. Ces descriptions qui accorde donc à l'imagination un rôle important dans la communication avec autrui, ont été reprises dans le cadre de la pensée post-husserlienne, qui a mis en évidence une forme spéciale d'imagination, c'est la fantasia. Parce que, avec Husserl déjà, nous pouvons faire la distinction entre deux formes de l'imagination qui sont assez différentes, à vrai dire. Il y a la conscience d'image d'une part, donc une conscience qui nécessairement passe par la formation, par la contemplation des images existantes, par la formation d'images inventées ou alors la contemplation d'images existantes, et la fantaisie ou la fantasia qui, elle, œuvre beaucoup plus librement. C'est une espèce d'imagination pure qui agit dans les rêveries, dans les rêves, qui ne forme pas à proprement parler des images et n'a pas non plus nécessairement besoin de s'appuyer sur elles. Ce n'est donc pas tellement la fantaisie comprise comme source de création inédite que ce mouvement créatif qui sous-tend toute vie subjective dans ses essais de donner du sens à son expérience et de se connaître à partir de cette expérience qui est ici visée. Cette forme d'imagination sans image est aussi une forme de perception, une perception floue, intermittente, fulgurante. Si du moins on accepte avec Husserl que dans les rêves, nous n'imaginons pas à proprement parler, mais nous percevons. Celui qui vit dans le monde des rêves y évolue en percevant directement ce qui s'y passe et non pas en saisissant des images qui renvoient à autre chose. Ce n'est que en nous en souvenant de nos rêves, en les interprétant après coup, que ceux-ci nous apparaissent comme des œuvres de notre imagination. Or, dans le cadre de la philosophie post-husserlienne, et je pense ici surtout à la théorie de Marc Richir, c'est précisément cette forme d'imagination sans image, qui est la fantasia, qui assure une forme de compréhension intersubjective. Selon Richir, je reconnais autrui comme mon semblable, non seulement parce qu'il se conduit comme moi, parce qu'il suit les mêmes normes sociales, culturelles, etc., mais en vertu de ce qu'il appelle une mimésis spéculaire du dedans. Une mimésis spéculaire du dedans. Bon, une formule qui, je vous avoue, est énigmatique également pour moi, mais je vous la propose quand même. Une mimésis spéculaire du dedans qui concerne le rapport à soi de chaque sujet qui va ensemble avec le rapport à autrui. Faire comme si j'étais autrui alors que je n'ai pas accès à ce vécu, c'est s'inscrire dans un rapport mimétique au sein duquel les rôles pourraient paraître, du moins de prime abord, interchangeables. Mais comment cette reconnaissance de l'autre se réalise-t-elle ? Comment la relation moi-autrui se construit-elle? Comment a lieu cette mimétique qui nous situe les uns par rapport aux autres? Faire comme si j'étais autrui, n'est-ce pas plutôt ramener la sphère subjective de l'autre à ma sphère subjective? C'est-à-dire faire plutôt comme s'il était moi? N'est-ce pas cela qui se cache dans l'opération de faire comme si j'étais autrui? Telle a été du moins la critique qui a été faite à Husserl par Lévinas. C'est d'avoir toujours pensé le rapport à autrui à partir de la sphère de l'ego, sans reconnaître entièrement sa dimension irréductible. En critiquant Husserl, Levinas fait valoir une asymétrie fondamentale qui affecte le rapport à autrui. Loin de se constituer à partir de moi, autrui trouve sa source, ce rapport à autrui trouve sa source dans une interpellation qui vient de l'autre, une forme d'appel à laquelle je ne peux pas me soustraire, à laquelle je ne peux pas ne pas répondre. Donc les rapports sont ici en quelque sorte inversés, ce n'est pas à partir de l'ego et de ce que l'ego peut faire que l'on conçoit les rapports intersubjectifs, mais plutôt à partir d'autrui qui lance un appel auquel le sujet que nous sommes ne peut pas se soustraire. « Je suis l'otage de l'autre », écrit Levinas, « dans toute relation à autrui ». Et dans cette relation dépourvue de réciprocité, l'imagination semble ne plus pouvoir jouer un rôle si important. Dans des rapports où on se rend l'otage l'un de l'autre, il n'y a peut-être pas beaucoup de place pour la liberté de l'imagination. Voici donc quelques pistes en fait, de cette problématique difficile de l'intersubjectivité en ce qu'elle fait participer la question de l'imagination. Je vais pour finir dire quelques mots sur la question de l'espace et de la spatialisation. Parce que c'est précisément cette dimension de la spatialisation qui s'avère importante pour éclairer ce problème difficile de l'intersubjectivité, les contraintes et les libertés qui lui sont propres. Effectivement, les descriptions husserliennes déjà font valoir une dimension des rapports subjectifs qui est loin d'être anodine. Il s'agit de la spatialité. L'incommunicabilité des différentes sphères de conscience, qui ressort du concept d'appréhensation, se reflète pour Husserl tout d'abord au niveau spatial, par le fait que je suis, pour ainsi dire, toujours le point zéro de la relation à autrui. En étant, moi, perpétuellement ici, tandis que l'autre se trouve là-bas. Donc, quels que soient les changements que l'on puisse induire à notre place dans l'espace, il reste quelque chose d'irréductible dans le rapport à autrui. Je suis toujours ici, tandis que l'autre est là-bas. Il y a là donc une séparation, pour ainsi dire, spatiale, dont on ne peut pas faire de l'économie, mais il ne s'agit pas pour autant d'une distance infranchissable. Et ceci grâce à l'imagination. Finalement, faire comme si j'étais l'autre, comme si je pouvais éprouver ce vécu, c'est faire comme si j'étais là-bas, comme si je pouvais changer de place, comme si je pouvais, pour le dire autrement, modifier la spatialisation de ma vie subjective. Tout en restant donc ici, je peux faire comme si j'étais là-bas, à la place de l'autre, partageant avec autrui la constitution de sens d'une expérience qui est son expérience, mais aussi une expérience commune. Cette opération de déplacement dans l'espace n'est pas dépourvue de paradoxes. Comment puis-je être à la fois ici et là-bas? Que veut dire faire comme si j'étais là-bas? C'est une double spatialisation de la subjectivité qui semble être en jeu dans le rapport à autrui, même si ce n'est pas de la même façon, bien sûr, que je me trouve ici et là-bas. Mais comment s'opère ce déplacement vers la sphère de l'altérité? Comment parvenons-nous à nous mettre à la place d'autrui? Pour expliquer ce passage d'ici vers là-bas, de moi vers autrui, on peut sortir pour une dernière fois du cadre de la phénoménologie husserlienne, et je vais terminer là-dessus, et faire appel à un concept qui nous est proposé par le philosophe italien Giorgio Agamben, c'est le concept de « aise ». Concept de « aise ». Être à l'aise, se trouver à l'aise, c'est finalement disposer, nous dit Agamben, d'un espace à côté, vers lequel nous pouvons toujours nous déplacer, mais au sein duquel nous pouvons également accueillir autrui. Cela veut dire concrètement que je ne suis jamais, en tant que sujet, uniquement à ma place, à une place déterminée, mais que je suis toujours en train de bouger entre ce qui est mon ici, à moi, et l'espace d'à côté. Un espace d'à côté qui n'est nul autre que l'espace de ma liberté, un espace d'une modification de ma position dans le monde. Dès lors, se mettre à la place de l'autre, ce n'est pas tout simplement se déplacer d'ici là-bas, d'ici ailleurs, mais ménager également un espace d'à côté où l'autre peut être accueilli. Cet espace d'à côté, c'est également la condition d'une action libre pour moi, une action libre par laquelle se constitue un espace commun. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous remercie pour votre attention. En espérant que ça n'a pas été trop facile.
Merci beaucoup pour cette conférence. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour vous donner le pas?
des questions, des remarques. Est-ce que c'était assez clair déjà?
Je crois que c'est clair. Vous avez entendu la conférence de M. Gilles hier, mais il y avait certaines choses qui me faisaient penser un peu à des choses dont on avait parlé. Je pense que c'est pas très, très, très clair, mais dans l'idée où il y a cette espèce de relation à l'autre, pas nécessairement. C'est plutôt oui que ça m'a attendu parce que M. Gilly parlait beaucoup de du fait qu'on a besoin d'être imaginé par les autres et vous parliez aussi du fait que les autres peuvent nous aliéner d'une certaine façon, nous objectiver d'une manière bien précise qui ne reprend pas l'entièreté de ce qu'on est, quoi. Mm-hmm. Et donc, ouais, je trouvais ça intéressant parce que, à première vue, ça a l'air de s'opposer, mais bon, j'imagine, enfin, je pense qu'il y a des points communs entre ces deux visions. Mm-hmm. Bon, je n'ai pas vraiment une question, parce que c'est juste que je trouvais ça intéressant de voir le lien entre les deux, mais bon, sans tout le développement de M. Gilly, je pense que c'est pas facile de.
Oui, c'est pas facile de décrire surtout hein, ce rapport imaginaire qui s'établit à l'autre. Mais c'est vrai, moi je crois que je vois une question, je sais pas, dans mon remarque, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une véritable opposition entre ce rapport objectivant à autrui dont j'ai parlé moi avec Sartre en caricaturant un tout petit peu et le rapport imaginaire qui serait lui un rapport beaucoup plus libre où voilà, un tout autre sens serait, sens du commun serait à jouer. Je crois qu'effectivement, les choses ne sont pas aussi simples. Hein. Donc, on n'échappe pas à l'objectivation en se réfugiant dans l'imaginaire. De la même manière, voilà, on peut envisager des contaminations aussi dans l'autre sens. Il y a certainement une aliénation possible qui est présente dans le rapport fantasmatique à l'autre ou dans le rapport fantasmatique que l'autre a par rapport à moi. Et j'imagine que c'est dans cette direction que pouvait aller également l'intervention de Raphaël Gelly. Maintenant, il y a une opération de l'imagination dont je n'ai pas pu parler ici. Je ne voulais pas être trop... fastidieuse, trop lourde en apportant tout cet arsenal des éléments descriptifs husserliens qui est toujours un peu difficile à avaler. Mais il y a une opération qui lui est propre et qui est importante, c'est la modification. Donc, Husserl nous dit, ce que l'imagination fait fondamentalement, c'est qu'elle modifie toujours la donne de ce qui est présent dans le vécu. La perception apporte directement des choses, voilà, nous sommes là en contact direct avec, par cette forme-là de notre sensibilité, mais par l'imagination, nous modifions ce qui est donné. Donc je dirais qu'avant de nous donner une espèce de domaine à part, l'imaginaire, où il y aurait à jouer ou pas une rencontre privilégiée avec autrui, l'imagination nous donne surtout la possibilité de modifier ce rapport, pour le meilleur et pour le pire, hein, c'est-à-dire d'agir sur lui, de le déplacer à chaque fois, de le transformer. Et c'est cette capacité de transformation des pratiques qu'il faudrait essayer de mettre en évidence à partir de l'imagination. C'est cela en tout cas qui m'intéressait moi, qui était à l'horizon des questions que j'ai posées ici.
Remarque, question, mais avec d'un point de vue un peu extérieur. Quand on a commencé en parlant de cette distinction entre le possible et le réel, et puis l'imagination comme étant productrice de possible, je me dis que peut-être le problème fondamental, tout le monde qui a des allers-retours évidemment, de Paul, le problème fondamental est celui de penser comment, notamment au niveau de la question de la matérialité de l'imaginaire, de l'imagination, de penser comment rendre possible une matérialisation de ce possible. Alors, je pense que ce que tu as dit sur le concis, peut-être on voit. Donc, comment dire, il s'agirait d'agir comme si impossible était réel, pour matérialiser ce possible. Très intéressant. Et en même temps, dans cette idée, on rencontre peut-être un test de demande la limite de l'approche australienne. On pourrait, en utilisant différents exemples, montrer la limite justement d'un jet, d'une action qui prétend produire de nouveau, de réaliser des possibles, en disant comme si ces possibles étaient là. On peut penser, par exemple, dans un cadre psychopathologique, comment entrer en rapport avec un psychotique dont les actes ne font pas du sens, ça va s'insérer, donc comme si ces actes avaient du sens, c'est ce qui est évidemment très problématique. Là, je me demande si la voix bachelardienne, et même ce que tu disais à la fin peut-être avec la campagne, ça ne permet pas de penser l'imagination un peu dans le sens de ce que vous avez appelé l'imagination de l'histoire, comme n'étant pas comment dire, une création, une production de possibles qui se fait en décalage par rapport au réel et qui s'agit ensuite de transposer dans le réel, mais qui est faite par le réel lui-même. Donc, des possibles qui insistent comme une. Donc, l'imagination, en fait, qui produit au sein même du présent des clivages dans lesquels on peut s'inscrire pour voilà, produire éventuellement du nouveau. Je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est surtout le côté. Est-ce que cette approche du comme si ne peut pas, ne risque pas de rencontrer une limite, disons, dans la mise en pratique. Pour parler en termes politiques, la question, la limite que je vois, c'est une sorte de, une forme de volontarisme, en fait, de l'imagination, si l'on veut.
Et qui pourrait rendre tout possible. Mais, je pense qu'il y a une limite, du moins, enfin, au moins une limite de cet exercice de l'imagination, c'est la limite de l'impossible. Voilà, tout dépend de ce qu'on entend par ce concept de possible. À quel point est-il vraiment éloigné de la réalité? Dans quelle mesure reproduit-il des traits, des caractéristiques qui sont déjà présents dans la réalité et qu'il s'agit juste de modifier ou de réactualiser? Souvent, lorsqu'on parle des possibilités qui sont les nôtres, on fait appel de fait à des choses qui sont déjà présentes dans le bagage de l'expérience et qu'on réactualise. C'est beaucoup plus intéressant d'essayer aussi de réfléchir à nos possibilités de faire comme si l'impossible pouvait devenir possible. Enfin, voilà, donc de jouer un peu plus loin, de faire jouer un peu plus loin ce travail de l'imagination. Maintenant, je ne sais pas, ce n'est pas facile en fait de répondre. Ce que je dirais, c'est que ce qui m'intéresse, moi, davantage que de dire que l'imagination ouvre des grands horizons et rend possible tout ce qui n'a pas été possible jusque-là, c'est plutôt de dire que l'imagination permet de faire des petits pas d'un côté et de l'autre, un peu en arrière et un peu en avant. Donc que le décalage, la modification qu'elle imprime au vécu est parfois voilà, infime, mais que c'est par ce type de déplacement-là que des transformations importantes peuvent arriver, surtout au sein des pratiques qui sont les nôtres. Je crois que ce type d'approche-là, beaucoup plus minimaliste, en fait, pour le dire dans ces termes, de l'imagination, est plus intéressante lorsqu'on réfléchit sur les pratiques qui sont les nôtres. Au niveau de la théorie pure, bien sûr, on peut aller d'emblée sur une théorie très massive de l'imagination et lui accorder tous les pouvoirs, en faire une espèce de force utopique qui est très massive, mais qui est également inutile dans beaucoup de situations. Alors qu'en réfléchissant sur ce qui est pratiquement là, dans l'ère de notre expérience, eh bien, ce type de menu décalage, de menu modification de l'imagination peut s'avérer plus intéressant. Et c'est bon, avec Agamben, peut-être qu'on peut développer quelque chose de ce type à partir de ses analyses à lui de l'aise dont tout sujet dispose.
J'aimerais bien comprendre quelle est vraiment la différence entre intentionnalité et imagination. Si on dit que l'imagination, ça nous permet d'agir sur le réel et de le modifier, quelle est la différence vraiment? Est-ce que ce n'est pas la même chose?
Ben, en fait, ce que j'ai essayé de décrire ici, c'est quelque chose qui a à voir avec les limites de l'intentionnalité. C'est un élément qui a été longuement travaillé, discuté dans le cadre des recherches post-husserliennes, où on s'est aperçu que voilà, cette théorie de l'intentionnalité que Husserl proposait comme une clé universelle en fait, pour décrire n'importe quel type de vécu ne pouvait pas aller toujours si loin que ça, et qu'il fallait aussi réfléchir à ce qui dépasse en fait, les pouvoirs de l'intentionnalité. Pour parler toujours du sens, hein, mais d'un sens qui n'est pas nécessairement un sens intentionnel. Maintenant, quelle est la différence avec l'agir de l'imagination? Eh bien, c'est sans doute une autre façon d'agir, hein, qu'une simple intention par laquelle je vise un objet. C'est une approche qui déjà n'est pas objectivante. Hein. C'est cet élément-là de l'imagination qui doit, je pense, être mis en évidence et qui est surtout évident lorsqu'on parle non pas de la conscience d'image, mais de la fantaisie, de la fantasia qui, elle, précisément, ne fixe pas nécessairement des objets. Il n'y a pas un rapport voilà, de visée directe, de tel ou tel objet auquel il s'agit de conférer un sens. C'est un rapport beaucoup plus libre qui se met en place, qui du coup a aussi justifié toutes ces approches qui accordent à l'imagination peu d'importance, parce que finalement, voilà, c'est pas quelque chose d'intentionnel, mais qu'est-ce que c'est finalement? Mais mon point ici, ça a été de dire non, il y a quand même une source transformatrice en fait, à chercher au sein de notre imagination, mais elle n'est pas de l'ordre d'une visée objective claire. Elle peut passer en partie par une objectivation, mais elle ne va jamais s'y limiter. C'était ça, c'est surtout cela que je voulais mettre en évidence. Amaury ?
J'ai déjà une position dans l'espace, même si c'est imaginé. Je ne peux pas dans l'air regarder le centre. En fait. Il y a un espace, je peux avoir un arbre à ma droite, à ma gauche, et il y a encore moins de vie. Il dit qu'il y a moyen là encore de faire du gaz évoqué. Ce qui est très proche de ce que le film dit. Et pour finir sur ce film, justement, par rapport à l'attitude naturelle, film à la fin de la civilisation cartésienne, qui justement dirait que l'attitude naturelle que moi, en tant que phénoménologue que j'ai quitté, je ne peux plus la trouver, et ça constitue finalement ce qui est toujours inconstitué pour la phénoménologie, qui a toujours échappé au processus de la constitution. Et je me demande si finalement le matériel résistant que tu parles avec Bachelard, on ne peut pas le protéger. C'est trois remarques générales.
Oui, très massive, merci. Mais voilà, ce sont des remarques que je propose en fait. Pour la réflexion commune qu'on développe ici, j'aurais pas de réponse définitive à tes questions. Mais la deuxième question, celle de la spatialisation de la quasi-époque, tu peux la développer un tout petit peu?
Ça me montre du tout, mais si je me souviens bien, on sort dit que voilà, même dans ce niveau-là où j'aurais neutralisé l'attitude naturelle et toutes les positions, même dans cette imagination où on projetait et on peut porter du chanteur, mais autre chose aussi, il dit que même là, je devrais encore réeffectuer une évoquée, mais qui n'est pas vraiment. On pourrait rapprocher ça de, par exemple, de la démarche de Fink quand il dit que même quand je reviens déjà à la subjectivité transcendantale, comme je suis repris dans le processus, comme la subjectivité transcendantale est repris dans le processus de constitution, on doit encore faire une évoquée. En fait, c'est un peu la même situation, mais déportée sur un autre point.
Oui, merci. En fait, je crois qu'il faut surtout prendre avec des pincettes toute idée de parallélisme en phénoménologie husserlienne. C'est toujours une question si difficile, en fait. Ça semble vraiment être la solution de tout un ensemble de problèmes, de dire que c'est simple, il y a un parallélisme entre le transcendantal et l'empirique, entre l'imaginaire et le réel, entre la perception et l'imagination, deux flux qui coulent tranquillement l'un à côté de l'autre, donc voilà, il y a tout un ensemble de questions qui n'a plus à se poser. Alors que bien sûr, c'est une facilité théorique qu'on se donne, en essayant de comprendre leurs distinctions, parce qu'il y a bien des distinctions qu'il faut mettre en évidence. Ce n'est pas pour autant que dans la vie naturelle, effectivement, les deux choses sont séparées. Et si c'était le cas, eh bien, on vivrait une espèce de... Voilà, on serait toujours dans une espèce de diplopie, de vision schizophrénique, en train de percevoir et puis d'imaginer. Non, les deux choses sont bien sûr mêlées. Et la difficulté, c'est de penser ce mélange-là, en fait, de penser cette interpénétration de la perception et de l'imagination. Moi, j'étais assez interpellée par l'exemple des trempe-l'œil, hein, qui revient beaucoup dans les descriptions husserliennes, non, où on passe toujours hein, voilà, de la conscience perceptive à la conscience d'image. Et c'est finalement bon, la conscience d'image qui nous donne une espèce de vérité de ce qui se passe là. Bon, il faut comprendre que c'est un trempe-l'œil, ce n'est pas quelque chose qu'on perçoit comme étant vraiment là en chair et en os, même s'il est quand même là. Mais ce type de situation ambiguë est, je pense, beaucoup paradigmatique de fait hein, pour la vie de tous les jours qui est la nôtre. Hein. On est souvent entre les deux. Et il y a également à mettre en évidence une forme d'imagination perceptive, une dimension perceptive de l'imagination dont on fait un peu trop souvent voilà, rapidement l'économie et qui est de fait la base de bon nombre de vécus imageants. Donc il faut penser cette ambiguïté-là, je crois, et elle est au cœur des trois questions que tu poses, je crois. Maintenant, pour réconcilier Bachelard et Fink, je te laisse le plaisir du travail, mais pourquoi pas.
On va peut-être faire deux, trois minutes d'introduction. Merci.